Je vais d'abord remercier chaleureusement les organisateurs et organisatrices du colloque pour leur invitation. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui sont en fait une partie des premières recherches de ma thèse de doctorat qui s'intéresse, elle, plus largement à l'histoire spatiale des communautés rurales, des grandes plaines, des États-Unis entre 1890 et 1920. Et on va donc un peu continuer cette histoire de la plaine qu'on a commencé à voir en fait hier avec les présentations d'Héloïsa et de Jack. En 1912, dans un comté reculé des grandes plaines du Kansas, Bessie Buell, 15 ans, écrit ceci dans la note qui accompagne la carte de ces deux townships. « There is said to be an Indian grave on top of Lone Butte. » But this is only a tradition, as one cannot discern whether it is a grave or just a mound. Avec cette phrase, qui fait partie d'une note de plusieurs pages, l'adolescente, qui a pour objectif de proposer une histoire de son voisinage, articule élégamment l'appropriation d'une topographie à travers les spéculations d'une communauté autour d'une présence indienne passée. Toutefois, signe des nouvelles normes de l'enquête historique, cette interprétation du lieu est soumise au doute de l'adolescente. Cette carte est un des nombreux produits de la colonisation de l'intérieur des États-Unis lors du XIXe siècle. Dans cette soi-disant conquête de l'Ouest, plusieurs narrations, parfois contradictoires, cohabitent. L'une d'elles prend la forme du canon de la destinée manifeste de la nation, qui verrait les fermiers vertueux occuper les grandes plaines selon un schéma cadastral rigoureux, celui du Rectangular Survey. Donc ça, c'est une des illustrations les canoniques de la destinée manifeste. Et ce que vous voyez là sont les arpentages des plaines des États-Unis. Et c'est le Nebraska et le Kansas. Associée aux différentes lois sur le territoire, cette cartographie construit un espace artificiel tout entier fondé sur l'orthogonalité. Basé sur la section du homestead familial, terre agricole de 160 acres, donc les 160 acres, c'est les plus petits carrés que vous voyez, vous avez une section, et en fait le plus petit carré que vous voyez, c'est le homestead de 160 acres. 160 acres auxquels tout à chacun a droit dès qu'il la valorise par la construction d'une ferme et par la conversion des sols en labour. Cette géographie est celle du carré. Une terre cartographiée, standardisée, découpée, produite pour la consommation coloniale. Tout au long du 19e siècle, au fur et à mesure du développement du chemin de fer, viendront s'y installer différentes populations, le plus souvent des immigrés du nord et de l'est de l'Europe. Suédois, Norvégiens, Danois, Allemands, Russes, Russes-Allemands venant d'Ukraine, Tchèques, etc. Mais également des immigrés originaires des États plus à l'est, Ohio, Iowa, Illinois. Nous aimerions proposer aujourd'hui une réflexion autour de ce qui se joue après cette prise physique des terres, si comme le défend notamment Patrick Wolf, la colonisation de peuplement est une structure et non un événement, quel mécanisme d'appropriation de l'espace, la seconde génération, celle des enfants nés sur la plaine, met-elle en place pour faire de cette terre un lieu d'appartenance sur le long terme? Nous avons choisi de nous tourner pour cette présentation vers le rôle de la pulsion historique dans la construction identitaire de ces localités, et plus précisément vers l'importance de l'histoire locale. Alors qu'à partir des années 1890, le territoire ne saurait plus être défini comme sauvage ou vierge, puisqu'il porte manifestement les signes d'une ruralité sédentaire, clôture, labour, route, chemin de ferme, ferme, grange, quelle histoire locale fait-on porter au paysage? Rappelons en passant qu'avec l'architecture et l'agriculture sédentaire, le rapport à l'histoire est une des caractéristiques régulièrement invoquées dans la volonté de distinction raciale par les pouvoirs coloniaux entre populations dites civilisées et populations dites sauvages. Pourtant, ce rapport à l'histoire dans les plaines pose un problème évident aux colons. En effet, si l'on reste sur une conception d'une histoire fondée par la généalogie, l'impératif de consensualité de l'histoire locale au sein du groupe s'écroule face à des communautés aux origines, si ce n'est aux langues, diverses. Cette aporie s'épaissit lorsque l'on prend en compte les jeux d'échelle auxquels nous mène le concept d'histoire locale, en contexte colonial. En effet, elle apparaît comme un lieu privilégié pour l'étude des interactions entre le local et le national. Elle se pose comme une négociation entre le récit vernaculaire familial ou communautaire et le récit sanctionné par l'État ou la nation. L'histoire locale contient en elle-même une ambiguïté, c'est une zone de frottement pour le projet colonial. Elle se situe entre une résistance à l'uniformité, portée par une volonté de distinction identitaire face aux autres récits, à chaque localité, chaque communauté humaine, sa propre histoire, et une recherche de conformation au projet colonial dans un désir d'exemplarité qui place cette même localité au centre du grand récit national. Nous sommes américains, voire nous sommes les plus américains des américains. Je vais procéder en trois temps qui correspondent à trois échelles. D'abord, on va se poser la question de l'évolution de la profession historienne au tournant du siècle aux États-Unis et le rôle de l'Ouest dans cette évolution. Ensuite, nous nous intéresserons à l'institution qui, à l'échelle de l'État, est responsable de collecter les histoires locales en prenant comme cas d'étude le Kansas. Et enfin, on s'intéressera aux cartes d'écoliers avec laquelle nous avons commencé notre présentation. Donc, le Kansas, c'est le carré tout au milieu. On verra mieux tout à l'heure. 1893, l'exposition colombienne fait de Chicago la métropole du centre du pays. Au milieu des festivités et des badauds, un jeune professeur d'histoire prépare sa présentation à la session de clôture du congrès organisé par l'organisation professionnelle, l'American Historical Association. Sa présentation s'intitule « De l'importance de la frontière dans l'histoire américaine » et deviendra le texte cadre de l'histoire de l'Ouest. Partir de cet essai est une gageure en histoire américaine, tant ce texte qui définit à lui seul le canon de l'hypothèse de la frontière est un lieu commun. Mais c'est très précisément à cause de l'hégémonie âprement débattue tout au long du XXe siècle, de la figure de Turner et de son essai qu'il nous faut débuter là. Et puisqu'il est ici question d'appropriation du territoire, il faut tout de suite remarquer que Turner part d'une série de cartes nommées « Le progrès de la nation », publié par le Bureau du recensement et qui cherche à mettre en avant, à travers les densités démographiques, l'avancée de la ligne de colonisation dans les terres de l'intérieur du pays. Le recensement déclare en 1890 non pas la fin de la frontière entre espaces vacants et espaces colonisés, mais plutôt la fin d'un front se déplaçant uniformément d'est en ouest. Turner utilise ces résultats pour déclarer la clôture de la frontière et faire de son existence tout au long du XIXe siècle la force vitale de la démocratie américaine et de ses institutions. Chaque individu, chaque communauté, chaque localité passe par les différentes étapes qui mènent de la sauvagerie à la civilisation. Le commerce avec les Indiens d'abord laisse la place à l'élevage semi-nomade qui lui-même cède devant le fermier et sa communauté sédentaire. Face aux duretés de la terre, l'homme blanc, parce que c'est de ça dont il s'agit, se confronte à la nature et y forge pour lui-même un esprit essentiellement américain. Que cette formulation trouve un écho ne doit pas nous étonner tant elle est alignée à l'idéologie de la destinée manifeste qu'on a déjà évoquée. Mais le saut épistémologique ne doit pas pour autant être sous-estimé. D'une destinée, d'un projet politique républicain, d'une utopie agraire à réaliser, Turner fait un récit historique. Au récit populaire, Turner donne la légitimité des sciences sociales naissantes, mais par là même l'enferme dans le passé. Geste qui ne va pas sans anxiété ni nostalgie. La frontière n'est plus, et cela fournit au pays un nouveau mythe des origines, loin d'une révolution très abstraite pour nombre de nouveaux migrants, et des conséquences notamment raciales de la guerre de sécession. Ce texte et l'hypothèse qu'il défend auraient bien pu rester mineurs si ce n'était pour le développement fulgurant de la discipline historique dans les universités américaines à la fin du XIXe siècle. Turner devient l'homme d'un seul texte et c'est par son immense influence sur la profession historienne, en tant que président de l'American Historical Association et de ses séminaires, d'abord à Madison puis à Harvard, qu'il va fonder une sous-discipline, l'histoire de l'Ouest, et fournir aux manuels d'histoire une narration qui continue à faire floresse. L'aspect daté de cette théorie de la frontière ne doit pas nous cacher certains éléments résolument modernes de la pensée de Turner et de ses élèves. D'abord, Turner prône une histoire de l'homme ordinaire. Il ne cherche pas à penser les constitutions des nouveaux États de l'Ouest, par exemple, mais plutôt les conditions socio-économiques de la vie sur la frontière. Une autre caractéristique est l'importance de la réflexivité dans les histoires qu'ils écrivent. L'écriture de l'histoire est explicitement présentée comme un projet politique pour le présent et ne saurait se passer des enjeux sociaux que pose la nation entrant dans les réformes de l'ère progressiste. Ces deux lignes intéressent très précisément l'histoire locale. L'intérêt pour l'importance de la vie ordinaire du pionnier mène à une histoire située locale, à petite échelle, tandis que le présentisme, alors avancé, fait de la fabrication de l'histoire locale pour les communautés un enjeu politique. Le peu de profondeur temporelle du territoire colonisé n'est plus un frein à la fabrication de l'histoire. Le local peut aussi bien se définir dans son acte de naissance et les conditions de vie des colons remplacer les longues généalogies de la Nouvelle-Angleterre. Et ça, cette façon de voir l'histoire est aussi en écho avec une métaphore qu'on trouve beaucoup à la fin du XIXe siècle, qui est celle de la brique. Les historiens sont là pour fabriquer une ou plusieurs petites briques qui viendront après faire la construction nationale. Donc l'histoire locale se fait en série. Chaque comté constitue une histoire, produit une brique qui viendra prendre place dans la construction nationale, à ce titre, aligné avec le capitalisme industriel et la découverte de la production en masse. L'histoire locale est un produit qui mime son territoire, dont le découpage géométrique a permis sa rapide consommation coloniale. Maintenant, j'aimerais pouvoir descendre en échelle et passer au Kansas comme point focal, qui est certainement un des états auquel Turner devait penser en 1893. Et d'abord, peut-être juste deux mots sur l'état. En fait, l'état se divise en deux. Vous avez l'est du Kansas, et à l'est du Kansas, vous avez la capitale, Topeka, vous avez un centre industriel, Wichita, vous avez la majorité de la population, et vous avez un centre intellectuel avec l'université du Kansas, qui est à Lawrence. Donc tout ça, c'est à l'est. Et à l'ouest, vous avez peu de choses. Vous avez de l'herbe rase, des hivers trop froids, des étés trop chauds, peu d'eau, encore moins d'arbres, beaucoup de vent. Ça, c'est une photo de 1912 de prise dans le comté de Russell à l'ouest. Et c'est des photos récentes. La carte que vous avez vue au tout début, c'est cet endroit-là. Et il y a de fortes tensions entre l'Est et l'Ouest, et notamment dans les années 1880-1890, les relations entre les deux parties de l'État connaissent des épisodes de tension, notamment par la presse interposée, allant jusqu'à des menaces de sécession de la part des deux côtés, particulièrement de la part de l'Ouest. L'institution clé pour la production des savoirs historiques se trouve à l'Est, évidemment, dans la capitale Topeka. C'est la société historique de l'État du Kansas. Fondée en 1875, seulement 11 ans après l'entrée du Kansas dans l'Union en tant qu'État, la Société historique a pour mission de collecter et conserver tout objet pertinent à l'étude de l'histoire du Kansas afin de représenter, et je cite, « le progrès passé et présent de l'État ». Elle a également pour mission de rendre ses collections accessibles au public. Parallèlement à ce cahier des charges, la Société publie un rapport biannuel pour le Congrès du Kansas. D'abord composé d'informations administratives sur le fonctionnement de la société, des minutes des conférences annuelles et de la publication de sources primaires, notamment les papiers des gouverneurs, ces rapports vont rapidement se transformer en réelles tentatives de production de savoir historique autour du Kansas et de son histoire locale. Pour cela, la société, dès 1881, en appelle à la mémoire de ses membres et plus généralement des habitants du Kansas. Le projet est clair et sera répété tout au long des deux premières décennies du XXe siècle. La société historique a pour mission de collecter ces récits afin qu'ils puissent être notamment utilisés dans les écoles pour qu'une jeunesse puisse se reconnaître dans son état. Mais au fond, le lien entre la société historique du Kansas et l'échelle du local est plus organique qu'un simple projet intellectuel. La société historique est en fait une institution hybride, caractéristique du tournant du siècle. Si la société est financée par la législature et occupe des bureaux dans le bâtiment du Congrès de l'État jusqu'en 1914, elle est en réalité fondée à Manhattan, Kansas, pas Manhattan, New York, qui, en 1875, pouvait très bien être considérée comme l'ouest du Kansas. Et elle est fondée par l'association professionnelle des journaux locaux du Kansas. La société se situe donc très exactement au carrefour entre le savoir vernaculaire et situé des journaux locaux et le savoir officiel englobant de l'État. À ce titre, la société historique commence son travail par l'archivage systématique de l'important volume de presse écrite publié dans l'État depuis son époque territoriale. Les journaux sont explicitement pensés dans le projet de la société comme la source historique primordiale du Kansas, basant l'organe responsable du discours étatique sur une source émanant des communautés pionnières et narrant le local. Ce mouvement du savoir ne va pas dans un seul sens. Si les journaux sont omniprésents à la société historique est elle-même étonnamment présente dans les journaux, que ce soit pour y faire la publicité de leur travail, y exhorter les tentatives d'histoire locale ou tout simplement publier des articles. Entre 1881 et 1923, la société historique publie 8500 pages par le biais de ses rapports biannuels. Ceci fait de la société historique, à ma connaissance, la productrice de la quasi-totalité des écrits historiques sur le Kansas pour cette période. Toutefois, il serait faux d'imaginer une institution surplombante, maîtresse du discours tout au long de ces années. La société historique du Kansas évolue énormément lors de ses premières décennies et ses débuts sont en réalité très modestes et sous le mode du bricolage et des relations interpersonnelles. Ce n'est finalement que dans les années 1900, sous le leadership de George Martin, ancien homme de presse et féroce républicain, que la société connaît une véritable période de formalisation institutionnelle et une modernisation de ses techniques d'archivage. Pour preuve, en 1905, l'État fait de la société historique le dépositaire de ses archives, et en 1914, après 10 ans de lutte, la société historique déménage dans un nouveau bâtiment face au Congrès, un bâtiment très symbolique. Et une telle évolution se ressent dans les publications. Non plus seulement une collection de discours aux qualités hétérogènes mêlées de publications in extenso de sources primaires, les transactions comme on les appelle, s'organisent autour d'articles regroupés selon des thématiques précises, telles l'histoire constitutionnelle, l'histoire militaire, l'histoire indienne, mais aussi les industries et l'environnement. Tout au long des années 1900 et 1910, la distinction entre historiens de profession et amateurs se fait de plus en plus marquée, sans pour autant privilégier les seconds, mais actant plutôt une différence entre ce qui relève de la collection de faits et de l'interprétation historique. En 1908, George Martin note avec plaisir que, je cite, « It will be observed that there is a steady advancement in our volumes towards the west half of the state. Our membership list also shows a gratifying interest in the work of the society, with members in Rawlins, Trego and Hamilton counties. » C'est des comtés de l'ouest. We hope, in our next volume, to give more space to personal narrative. Martin lit donc, avec beaucoup de naturel, les deux projets que sont l'histoire de l'Ouest du Kansas et la production d'histoire locale. Mais c'est avant tout en invoquant les membres de la société qu'il nous donne une lecture des raisons de la progression des récits historiques émanant de l'Ouest du Kansas. En effet, le projet n'est pas uniquement culturel. Si l'Ouest est important pour la société, c'est en partie parce qu'il représente un exotisme, parce qu'il est encore un lieu de la frontière. Mais si l'Ouest est présent physiquement dans les publications, c'est d'abord pour des raisons de structure sociale. En effet, c'est l'institutionnalisation des plaines de l'Ouest et l'émergence d'une notabilité rurale qui permet au récit des pionniers de faire partie du discours de l'État. Le pionnier lui-même n'est pas central dans la production du savoir. C'est plutôt le banquier, le juge, le superintendant du comté, le fermier influent qui cherche dans l'histoire de sa ville, de son district, de son voisinage, un capital social et culturel. À ce titre, le juge Ruppenfahl du comté de Russell est exemplaire. Alors Russell, c'est vraiment le centre. Donc l'Ouest commence quelque part par là, et Russell, c'est ce petit carré là. J.C. Oppenthal, le juge, est un instituteur plein d'ambition lorsqu'il devient membre à vie de la Société historique en 1902. Devenu avocat, puis procureur, la fréquentation de la Société historique et les nombreuses exhortations de celle-ci à faire de ses membres des historiens du local aiguisent son appétit pour l'histoire de sa communauté. C'est au cours d'une discussion avec le secrétaire Martin dans son bureau à Topeka que Ruthenfall remarque une pile de cartes vierges représentant chacune la grille générique d'un township et ses 36 sections carrées. L'idée lui vient de demander aux habitants de son comté de remplir eux-mêmes ces cartes en mettant en avant leur histoire locale. Mais ce n'est en fait que lorsqu'il sera élu juge 5 ans plus tard, en 1907, qu'il décide d'organiser un concours pour les écoliers de ses comtés. Le statut social agit donc comme un déclencheur. Chaque enfant devra dessiner un township. Un township comme ça, c'est 10 km sur 10 km, pour donner une idée de l'échelle. Donc chaque enfant devra dessiner un township de son choix et y noter les éléments topographiques, mais également tout fait qui pourrait intéresser l'histoire locale du comté. Dans la circulaire qu'il envoie dans tout le district judiciaire dont il a la charge, qui est très grand, c'est 6 comtés, le juge ne laisse rien au hasard, donnant la façon dont les cartes devront être légendées, les éléments qu'elles devraient contenir, mais aussi les prix qu'il compte lui-même attribuer, entre 3 dollars et 25 cents. La circulaire est publiée, je vous ai fait un petit schéma pour voir comment les choses fonctionnent, la circulaire est publiée dans les journaux locaux, le papier, donc les cartes vides, blanches, vierges, est fourni par la Société historique, les superintendants des comtés pour l'éducation publique sont chargés de récupérer les cartes que les enfants font en classe. Un comité à l'école normale de Hayes notera les cartes et les enverra au juge qui lui offrira les prix aux enfants pour finalement envoyer les cartes à la Société historique de Topeka pour être préservées comme documents historiques. École, justice, presse, les institutions clés de la ruralité des Grandes Plaines sont à l'œuvre pour la production du savoir historique. Et il faut noter que ce concours se déroule à un moment où les institutions connaissent de profonds changements, notamment dans la consolidation et la pérennisation de leur fonctionnement. Entre 1907 et 1914, les écoliers dessineront 69 cartes, dont 58 sont aujourd'hui conservées à la Société historique. Les propositions sont très hétérogènes et la note historique servant à accompagner la carte va de la légende sommaire au récit détaillé d'un événement.
Je vous ai mis quelques exemples.
Donc vous ne voyez pas très bien, mais par exemple, vous avez la note historique, ça peut être juste la légende que vous voyez à droite. Ou un texte avec des points qu'on reporte sur la carte par rapport à la façon dont le récit se déroule. Et ici encore, on retrouve la pensée du présent comme passé du futur, avec des enfants faisant des cartes des propriétaires aujourd'hui, à l'époque, de leur township. Donc par exemple, vous avez une carte de propriétaire qui est quasiment une carte de recensement du township, où vous avez très 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 peu de points qui correspondraient à des événements historiques passés. Mais on a aussi des propositions plus attendues, où le récit s'adresse à un événement passé. La violence et la mort occupent une place non négligeable, tout comme les récits d'arrivée de colons, les premières années de la vie politique du comté, ou les catastrophes naturelles, particulièrement autour de la gestion de l'eau. C'est des endroits semi-arides, c'est des plaines semi-arides, donc la question de comment on fait pousser du blé et comment est-ce qu'il y a trop d'eau ou pas assez d'eau est une question qui les intéresse beaucoup. On trouve aussi, mais relativement peu souvent, le topos du conflit entre Indiens et colons. Par exemple, Bessie Buell, avec laquelle on a commencé cette présentation, écrit pour sa carte. Donc ça, ah oui, ça c'est le, Donc vous avez le recensement et vous avez en fait le nom de tous les fermiers. Donc revenons à la carte de Bessie Buell. Elle écrit on section 44, range 44, indicated by a star on my map, a band of warlike Indians attacked Mr. Matthews and his hired help, making hay in 1887. They killed Mr. John White, a white man, and a colored man, whose his name was not remembered. Mr. Matthew was wounded in the left hand. The rest escaped. The bodies of the dead were buried there, and the graves can still be seen. Vous avez aussi souvent ce rapport au marqueur, que ce soit une tombe ou que ce soit le marqueur de l'arpentage. Comparé à la profusion des écrits que publie la Société historique au même moment sur l'histoire indienne, j'aimerais, pour conclure, m'interroger sur l'appropriation qui se joue dans la relative invisibilité des populations indigènes dans ces histoires locales. On ne trouve dans les cartes d'enfants aucune trace d'une image du noble sauvage, et cela semblerait indiquer une vision très négative des populations indiennes. Mais il me semble qu'il faut se demander si ce n'est pas plutôt le concept d'histoire locale qui produit cette négation. L'histoire indienne n'a que faire de la fragmentation coloniale de l'espace. Ce démembrement en voisinage, en communautés sédentaires, les rend en réalité, si ce n'est invisible, en tout cas incompréhensible pour les populations qui sont blanches, qui sont sur place. Puisque l'échelle est celle du colon, l'Indien apparaît comme une présence entrant et sortant du champ sans raison apparente, sans structure sociale, sans même être nommé. Ainsi, ce qui fonde la communauté rurale de façon interne et la rattache de façon externe à la communauté imaginée de la nation, travaille aussi en partie à la négation de toute autre échelle, faisant de la création d'un sens d'appartenance une inévitable spoliation du passé des terres des Grandes Plaines. Merci beaucoup.